Nous sommes le 19 février 2018. Bienvenue à l'émission Les Voix de Service Magazine. Encore une fois, bien content de vous retrouver en ce début de semaine en compagnie de deux collaborateurs qui sont bien en place pour nous lire différents articles de magazines et de blogs, en commençant tout de suite et en allant à Rejoinvière. Comment allez-vous ce matin?
Ça va bien ce matin. C'est le printemps ici à Montréal, alors...
Ouais.
Voilà. Et moi, je vais vous lire deux articles que j'ai pris dans le journal L'Itinéraire de février 2018, du 1er février. Le premier, c'est une entrevue qu'a réalisée Jo Redwich, du journal L'Itinéraire, avec le psychiatre Pierre David, qui est le chef du programme des troubles relationnels et de la personnalité de l'Institut universitaire en santé mentale de Montréal. Mm-hmm. Et cette entrevue, le titre, c'est « Nous sommes tous narcissiques », et oui, mais à des degrés divers.
Ah, bien d'entendre.
Et le deuxième article est écrit par Yannick Marcille, qui est économiste indépendant et qui s'intitule « Les hommes au fourneau ».
Ben, merci beaucoup. Voilà. On se retrouve dans quelques instants et on va retrouver un autre soleil de la journée.
Oh, voyons donc, ça commence hein, la semaine.
Oui. Monsieur Serge Roy, comment allez-vous?
Non, Serge. Serge est au Mexique.
Oui, c'est vrai, il est au Mexique. C'est parce qu'il m'a écrit cette semaine, c'est pour ça. Rajiv, comment allez-vous?
Oui, ça va très bien, ça va très bien. Comme dit Franceline, le printemps est au coin de la rue.
Et voilà.
Ouais. Et moi, ce matin, je me suis intéressé, et j'espère que ça va vous intéresser aussi, à la recherche scientifique. Mm-hmm. D'abord, sur l'intelligence artificielle. On est très loin, là. On est quasiment dans la science-fiction. Mais aussi sur les souvenirs, vos souvenirs d'enfance de 1 à 3 ans. Pourquoi on les oublie?
Ah oui, intéressant.
Ça, c'est intéressant.
Quel est votre plus ancien souvenir?
Ah, là, c'est mon ça. Dieu, quand c'est je suis né, je oh. pense.
Pas sûr qu'on ait la réponse quand même. Non. On pose des questions.
Ah ben, aussi bien hâte d'entendre ça. Et moi, ben, je vous parlais d'un sujet un peu plus stressant, justement, le stress. Alors, j'ai deux sujets. La déçue. Alors, on vous revient dans quelques instants avec Franceline. En attendant que je remémore mes souvenirs entre 1 et 3 ans, on va retrouver tout de suite Franceline comme
oui,
premier article.
Voilà, avec donc l'entrevue qu'a réalisée Jo Redwich et qui s'intitule « Nous sommes tous narcissiques à des degrés divers ». D'abord, l'expression narcissique remonte loin dans l'histoire. Ça vient d'un prince nommé Narcisse qui se regardait dans l'eau d'un lac à l'époque où il n'y avait pas de miroir. Et à force de regarder son reflet dans l'eau, il y tomba et s'y noya. Mmh. Voilà. Alors, nous sommes tous narcissiques. Dans une société du « je, me, moi », on rencontre de plus en plus d'individus imbus d'eux-mêmes. Dans les médias, on les qualifie souvent de pervers narcissiques. Souffrent-ils pour autant de troubles de personnalité? C'est ce que le psychiatre Pierre David va tenter de nous éclairer. À partir de quel moment parle-t-on d'un trouble de personnalité? C'est une grosse question, dit-il. À vrai dire, il n'y a pas de réponse précise. C'est compliqué d'évaluer une personnalité. Le monde n'est pas séparé entre les gens qui ont le trouble de personnalité narcissique et ceux qui ne l'ont pas. En fait, même si on pose un diagnostic, ça ne donne pas grand-chose. La personnalité est très complexe et il faut regarder les nuances. Qu'est-ce qu'un pervers narcissique ? Le terme de pervers narcissique n'est pas utilisé dans le langage courant en psychiatrie. On l'utilise davantage le terme narcissique malin, qui n'est pas encore officiel, pour les cas graves. Comment définit-on le trouble de personnalité narcissique ? Le narcissique est très fragile. Il a une estime de lui instable. Il se caractérise par sa grandiosité. Il aime faire l'étalage de ses succès. Il recherche le regard admiratif des autres. Dans la vie, tout le monde aime être admiré et recevoir des compliments. Mais le trouble narcissique ne peut survivre sans compliments. Il utilise les autres et ne les considère pas comme des personnes. Il instrumentalise les autres et les considère comme des objets. Naît-on avec ce trouble ou le développe-t-on plus tard? Tout n'est pas déterminé par les parents. Il y a l'environnement de l'enfant et ses capacités propres. Quand un jeune enfant a un succès, il a de la difficulté à gérer cela parce qu'il l'idéalise. Cependant, la vie ne se résume pas à être idéalisée. Il faut apprendre qu'on peut avoir des difficultés et qu'on ne peut être bon dans tout. Il faut pouvoir convenir de cela. Comme adulte, on doit pouvoir accepter les critiques ou les éloges sans que cela nous déséquilibre complètement. Est-il exact que le narcissique n'éprouve ni remords ni culpabilité quand il fait du mal aux autres? C'est difficile de le dire vraiment. Les gens sont complexes, leur personnalité aussi. Il y a des gens qui sont très manipulateurs dans certains types de relations. Est-ce qu'ils le sont dans tous les types de relations et à tous les niveaux? Peut-être pas. Cela ne se manifeste pas toujours de la même façon dans tous les types de relations. On peut être narcissique dans sa vie de couple, sans l'être dans sa vie professionnelle, tout dépend. Sommes-nous tous narcissiques? Oui, évidemment. En grandissant, nous apprenons tous que nous avons une valeur et des qualités. Mais il y a des degrés divers. Enfant, il est souhaitable de développer l'estime de soi. Il faut donc encourager les enfants à développer des zones de succès. Mais on doit aussi valoriser les enfants pour l'effort et la persévérance. Recevez-vous souvent des personnalités narcissiques malignes en consultation? C'est une clientèle que l'on ne voit pas vraiment, presque pas. Ces gens ne reconnaissent pas qu'ils ont un problème. Il y a des gens narcissiques très haut placés qui fonctionnent bien et qui préfèrent aller au privé pour consulter. Ils ne viendront pas en clinique publique. Il y en a dans tous les milieux, de très riches et à faible revenu. Ces personnes ne sont pas agréables au contact. Certains sont conscients de leurs problèmes, d'autres pas. Qu'est-ce qui pousse certaines personnes à vouloir travailler sur eux-mêmes? La plupart du temps, ces personnes ont atteint un certain âge. Ils ont une certaine expérience. Lorsqu'il y a des patterns répétitifs, ça devient difficile pour eux. Ça ne les mène nulle part. C'est ce qui les motive à consulter. Ils ont un dysfonctionnement dans la vie de tous les jours, des difficultés à fonctionner en société ou des éléments de souffrance. Y a-t-il une médication possible? La médication ne fait pas de miracle pour les troubles de personnalité narcissique. Cela peut aider s'il y a des symptômes extrêmes. Mais ce n'est pas la médication qui va tout changer. C'est plus un processus de thérapie. On peut donner un antipsychotique à petite dose, mais généralement, on ne traite pas ces troubles par une médication. En parlant des dossiers de M. Salvay et Roson, la chroniqueuse Isabelle Maréchal a écrit qu'ils étaient des pervers narcissiques convaincus de leur surpuissance. Que pensez-vous de ce genre de propos? Les psychiatres évitent d'étiqueter les gens comme cela. Ça ne réfère à rien. C'est trop rapide comme jugement. Puis la réalité est beaucoup plus nuancée que cela. On doit se garder une petite gêne, une petite réserve. Surtout si les gens n'ont pas été préalablement diagnostiqués. Peut-on faire soi-même un travail personnel sur soi? Ce qui est souhaitable, c'est de ne pas avoir toujours besoin du regard admirateur des autres pour survivre. Tout le monde a des enjeux narcissiques, mais il est important, en tant qu'individu, d'avoir un regard là-dessus, une compréhension de cela. Un regard autocritique nous aide à devenir de meilleures personnes. Il faut comprendre nos propres motivations et ne pas vouloir en faire trop. S'oublier complètement, ce n'est pas mieux. Le but à atteindre, c'est l'équilibre. Alors pour terminer, quelques manifestations de narcissisme. Donc on peut diagnostiquer le trouble de personnalité narcissique si on a au moins 5 des manifestations suivantes. La personne a un sens grandiose de sa propre importance. Elle surestime ses réalisations et ses capacités, s'attend à être reconnue comme supérieure sans avoir accompli quelque chose en rapport. Elle est absorbée par des fantaisies de succès illimité, de pouvoir, de splendeur, de beauté ou d'amour idéal. Elle pense être spéciale et unique et ne pas pouvoir être admise ou comprise que par des institutions ou des gens spéciaux et de haut niveau. Elle a un besoin excessif d'être admirée. Elle pense que tout lui est dû, s'attend sans raison à bénéficier d'un traitement particulièrement favorable et à ce que ses désirs soient automatiquement satisfaits. Elle exploite l'autre dans les relations interpersonnelles, utilise autrui pour parvenir à ses propres fins. Elle manque d'empathie, n'est pas disposée à reconnaître ou à partager les sentiments et les besoins d'autrui. Elle envie souvent les autres et croit que les autres l'envient. Elle fait preuve d'attitude et de comportement arrogant et hautain. Alors, pour terminer, un psychologue dit ceci, « Il faut se protéger des personnes narcissiques puisqu'elles sont dénudées d'empathie. Elles nous séduisent d'abord, puis nous utilisent et nous font mal. L'autre sera toujours traité comme un outil à jeter après usage pour ces personnes-là. » Donc voilà quelques éléments à propos du narcissisme. Et donc c'était écrit par Joe Redwich, qui avait fait une entrevue avec Pierre David, le psychiatre.
Après cet article, c'est peut-être une occasion de faire un examen de conscience.
Hein? Bon, oui.
On pourrait. On vous revient dans quelques instants avec Roger. Alors, est-ce qu'on est prêt pour l'intelligence artificielle, Roger?
C'est la question qu'on pose dans l'actualité. Uh-huh. C'est M. Alec Castonguet, le journaliste, qui s'est intéressé à la question. Et le texte, en introduction, dit ceci. « Rarement deux mots ont-ils porté autant d'espoir que de crainte. L'intelligence artificielle est un progrès comparable à l'invention de l'ordinateur pour certains, mais nous rapproche des robots tueurs pour d'autres. Le développement de cette science suscite une véritable frénésie et à l'actualité... Nos têtes étaient remplies de questions. Quelle sera la puissance de ces machines? Feront-elles disparaître des millions d'emplois? Les États sont-ils prêts à ces changements sociaux? Pour y répondre, nous avons réuni dans une rencontre inédite le décideur du Québec, le premier ministre Philippe Couillard, et le spécialiste de l'intelligence artificielle dans la métropole et l'une des sommités planétaires, Yoshua Bengio, directeur scientifique de l'Institut des algorithmes d'apprentissage de Montréal. Pendant plus d'une heure, au sommet Place Ville-Marie, au cœur du centre-ville de Montréal, nous avons discuté de l'intelligence artificielle. Alors, c'est sous forme de questions et de réponses. Alec Castonguet, nous avons présentement l'une des plus belles vues sur Montréal. En bas, un peu partout dans la ville, des centaines de chercheurs, de programmeurs et d'étudiants s'affairent à développer l'intelligence artificielle. Qu'est-ce qu'ils font exactement? Yoshua Bengio, nous essayons de construire des machines un peu moins stupides. On veut que ces ordinateurs aient une certaine compréhension du monde. L'intelligence artificielle moderne s'appuie sur la capacité de l'ordinateur d'apprendre à partir d'exemples de données. Aujourd'hui, les machines ont besoin des humains pour leur enseigner comment fonctionne le monde, pour leur dire « voici une chaise, voici une table, voici la place Ville-Marie » et ainsi de suite. Il faut beaucoup de ces exemples pour les aider à reconnaître les concepts importants. Dans l'avenir, on espère que l'ordinateur sera davantage comme nous, donc plus autonome dans sa capacité de réfléchir et d'apprendre. Castonguet, Monsieur Couillard, quand avez-vous remarqué pour la première fois que l'intelligence artificielle n'était plus de la science-fiction? Monsieur Couillard, lorsque j'ai fait une recherche sur un vendeur de livres en ligne bien connu et que la machine a reconnu mes goûts et m'a suggéré des lectures. J'ai aussi certains amis qui commencent à avoir des assistants domestiques virtuels, qui apprennent progressivement de nos dialogues et des bruits de la maison pour prendre certaines initiatives, c'est déjà autour de nous. Castonguet, Google et Facebook veulent l'utiliser pour repérer les contenus offensants ou dangereux en ligne. Il y a aussi les assistants vocaux comme Siri, les voitures autonomes, la réalité virtuelle. Monsieur Couillard, Steve Jobs dit aux gens de quoi ils allaient avoir besoin. Steve Jobs a dit aux gens de quoi ils allaient avoir besoin. Personne n'avait exprimé le besoin d'avoir un iPad ou un iPod. Il avait cette capacité d'anticiper les besoins également présents chez les meilleurs chercheurs et entreprises de l'intelligence artificielle. Yoshua Bengio dit « La créativité va s'exprimer et ça ne viendra pas nécessairement des universités. Les chercheurs élaborent les fondements comme les mathématiques et les algorithmes. » Mais on n'est pas en train de réfléchir à la manière de combiner ces idées pour créer le prochain iPad ou le prochain iPod. Les ingénieurs et les entrepreneurs créatifs vont imaginer les applications concrètes de l'intelligence artificielle. Castonguet, Zubin Garamani, qui dirige la recherche en intelligence artificielle d'Uber, a déclaré que c'était la révolution technologique la plus importante depuis l'invention de l'ordinateur. Est-ce à ce point majeur? Monsieur Couillard dit « C'est carrément un changement de civilisation. On peut comparer ça à de grands bonds technologiques comme l'invention de l'imprimerie ou de l'agriculture qui ont donné lieu à une explosion de connaissances et ont profondément changé la relation entre les humains. Les historiens du siècle prochain vont lier ces années-ci à ces innovations marquantes. » Yoshua Bengio de dire « Tout à fait. Mais il est difficile de qualifier ce changement parce qu'il en reste encore tellement à venir. » l'avenir sera très différent de ce qu'on peut actuellement imaginer. L'effet, vraisemblablement, sera important non seulement sur la société, mais sur ce que nous sommes comme êtres humains. Castonguay, avez-vous lu quelque chose récemment sur l'intelligence artificielle qui vous a marqué? Alors, M. Couillard de dire, curieusement, « J'ai lu la biographie de Léonard de Vinci, ce génie universel de la Renaissance. Il regardait le vol des oiseaux et tentait d'en déduire des éléments pour comprendre comment l'humain ferait pour voler. Ensuite, il regardait une rivière contourner des obstacles et déduisait certaines choses sur les fluides ou la circulation de l'air. Il a fait des recherches sur la lumière, ce qui lui a permis d'être un peintre de génie. Il a disséqué le corps humain pour comprendre l'appareil visuel. Ça illustre la genèse des idées complexes. Il me semble qu'on est encore très loin du moment où une machine pourra générer elle-même ce type de réflexion complexe. Est-ce que je me trompe? Monsieur Bengio de dire, sur ce plan, vous avez raison. Par contre, en principe, c'est un peu la base de ce qu'on demande aux machines. Découvrir le sens derrière ce qu'elles observent, les régularités qui expliquent les causes. Cependant, on est loin du niveau d'abstraction et de compréhension du monde d'un Léonard de Vinci. Je suis optimiste parce que c'est sur quoi on travaille, mais combien de décennies ou de siècles ça demandera avant d'arriver à ce niveau-là, je ne sais pas. Monsieur Couillard, c'est une discipline qui semble s'inspirer de la nature. J'ai fait des sciences neurologiques et je constate que vous essayez de reproduire la notion de couche des neurones dans le cortex. Monsieur Bengio de dire, il y a beaucoup d'inspiration venue du cerveau, c'est vrai. Philippe Couillard, comme l'apprentissage de l'enfant, c'est ce qu'il absorbe comme connaissance au fil des répétitions qui compte. J'imagine que c'est le même principe pour les machines. C'est le changement dans les connexions, dit Bengio, au fil des expériences qui constituent la mémoire de la machine. Castonguay, est-ce qu'on peut dire que l'intelligence artificielle est au stade bébé de son développement? Les machines apprennent, mais elles manquent d'autonomie. Bengio de dire, on aimerait être là. On est plutôt dans l'échelle de l'évolution à ce qui correspondrait à une souris ou à quelque chose comme ça. Et même ça, pour le contrôle moteur, on n'en est pas là. On est obligé d'enseigner aux ordinateurs les concepts les plus importants, parce qu'ils ne sont pas capables de les découvrir aussi rapidement que l'humain. Un enfant n'a pas besoin de vivre une expérience 5 millions de fois avant de comprendre. L'ordinateur, oui. Par exemple, on a réussi à construire un système qui peut battre le meilleur joueur de Go au monde, mais l'ordinateur a dû jouer des millions de parties pour y arriver. Un humain n'aurait jamais le temps de jouer autant dans toute sa vie. On est capable de faire mieux que l'humain dans certains cas, mais c'est en déployant des quantités de ressources bien au-delà de ce dont la nature a besoin pour comprendre. Castonguay, j'ai toujours pensé que deux choses fondamentales nous distinguaient des machines, les émotions et l'intelligence. Est-ce qu'on est en train d'abattre l'une des frontières qui nous séparent des robots? Bengio, c'est le but. On progresse. Ça nous amène à des questionnements du genre, c'est quoi? Être un humain. Philippe Couillard, la conscience de soi notamment. Est-ce que la machine est consciente de son existence? C'est une grande différence avec l'humain. Bengio de dire, pas aujourd'hui. Mais est-ce qu'elle le sera un jour? On peut se poser la question. Alors, on est très loin d'atteindre les connaissances pour l'intelligence artificielle de ce que peut représenter l'humain. Ouais. La conversation porte sur d'autres questions comme la question de savoir si un jour la machine pourra apprendre à distinguer le bien du mal, encore faudrait-il savoir où est le bien et où est le mal, et ce que doit faire la société québécoise pour se préparer à l'avènement de cette révolution. Alors, le texte est très long, je pense que je peux peut-être en ajouter un peu, là. Une question posée par M. Castonguay qui me semblait intéressante. M. Bengio, si vous étiez premier ministre du Québec, que feriez-vous pour soutenir l'intelligence artificielle tout en vous assurant qu'il y a plus de positifs que de négatifs, M. Bengio, pour avoir les moyens de faire face aux transformations économiques et sociales qui s'en viennent, notamment sur le marché de l'emploi? Il nous faudra des ressources. Ça va coûter quelque chose pour la couverture sociale et l'éducation, par exemple. Le meilleur endroit pour aller chercher cet argent, c'est dans la croissance économique venant de l'intelligence artificielle. Or, ça ne se produira pas si cette richesse est le fruit des grandes entreprises américaines. Même si elles ont leur centre de recherche à Montréal, certaines de ces prochaines grandes sociétés mondiales du domaine doivent venir du Québec. Il faut aider nos jeunes pousses, nos PME, qui sont très agiles. On doit faire tout ce qu'on peut pour permettre leur éclosion. elles ne doivent pas être sans cesse rachetées par les grands acteurs américains ou chinois avant d'arriver à l'étape des profits. Il faut maximiser les chances d'être des producteurs d'intelligence artificielle et pas seulement des consommateurs. Mm-hmm. Montréal est très bien placé apparemment sur la carte mondiale pour l'intelligence artificielle. Monsieur Couillard dit, on me dit que nous sommes l'un des trois pôles majeurs avec Londres et Singapour.
Oui, tout à fait.
Monsieur Bandio dit qu'on a ce qu'il faut ici à Montréal pour devenir un genre de Silicon Valley.
Il y a de très, très beaux talents ici pour cette facette du travail. Mais est-ce que ça vous fait peur, le développement de cette technologie?
Un peu. L'automobile qui se promène autonome, là.
Ouais.
Si elle a un accident, c'est qui le responsable? C'est pas comme si c'est votre chien qui fait quelque chose.
Et voilà.
Ce genre de questions-là.
Une belle question à se poser, qu'on peut se poser pendant la pause musicale. On revient dans quelques instants.
D'entendre Claude Bégin et la pièce « Voiture volante ».
Ah, voilà, en lien avec ce que Roger nous avait parlé auparavant. Ben moi, je vous pose la question suivante, un article que j'ai retrouvé sur passeportsanté.net. Pourquoi a-t-on une boule dans la gorge quand on est stressé? Ah, vous voulez savoir pourquoi?
Excellente question.
Alors voilà. Pourquoi a-t-on cette fameuse boule dans la gorge serrée face au stress? Est-ce le reflet d'une réalité biologique? Peut-on cartographier les émotions? Ben, des scientifiques de l'université d'Aalto en Finlande ont classé les réactions du corps en lien avec diverses émotions. Ils disent que le corps réagit aux émotions comme le laissent entendre de nombreuses expressions, en avoir plein le dos, avoir la gorge serrée ou encore avoir l'estomac noué. Mais ces réactions physiques sont-elles réellement des reflets de nos émotions? Ben, une équipe de l'Université d'Aalto en Finlande a tenté de classer les réactions du corps en lien avec une palette d'émotions. Leurs résultats sont parus dans la revue Proceedings of the National Academy of Science. Ces chercheurs ont établi la carte corporelle des émotions permettant de localiser les ondes du corps stimulées par 14 émotions comme la colère, la peur, le dégoût, la tristesse et aussi l'amour. Au total, on dit que 700 personnes ont été interrogées en Suède, en Finlande et à Taïwan. Elles ont expérimenté différentes émotions à l'aide de narrations, d'images, de films. Ces participants ont ensuite colorié un schéma de corps humain avec différentes couleurs, entre autres le rouge, pour une sensation accrue, puis le bleu pour une moindre activité. S'ils ne sentaient rien, ils laissaient la zone vide. Alors les auteurs, en introduction de l'étude, soulignent la difficulté de l'exercice. Ils disent même si les émotions sont associées à une large palette de changements physiologiques, savoir s'ils sont assez spécifiques pour servir de base à des sensations émotives discrètes, comme la colère, la peur ou la joie, ben, est toujours vivement débattu et la distribution topographique des sensations physiques reliées aux émotions est toujours inconnue. Cette étude met en lumière le fait que les sensations perçues par le système limbique du cerveau se traduisent dans le corps par une dilatation ou une diminution de la taille des vaisseaux sanguins de certains organes, provoquant ainsi leur réchauffement ou leur refroidissement. Simultanément, notre cerveau nous permet de réagir aux événements externes. L'amygdale est l'élément qui permet de réagir aux sensations, par exemple en provoquant la fuite en cas de peur provoquée par un bruit. L'hippocampe joue ensuite pour relativiser le stress, voilà. Et c'est, tout ça, c'est expliqué par l'ostéopathe Roger Fiamenti. Et je vous donne deux phases, en fait, rapidement. La phase de l'alarme, c'est l'organisme qui réagit à cette attaque en stimulant les glandes surrénales afin qu'elles libèrent de l'adrénaline et que le corps puisse réagir immédiatement. Et la deuxième phase du stress, c'est la phase de résistance alors que l'organisme libère ensuite d'autres hormones, dont le cortisol, entre autres, aussi quelques autres hormones, la dopamine, ainsi de suite, alors l'endorphine, ainsi de suite. Alors, c'est un texte que j'ai trouvé sur passeportsanté.net. On vous revient pour la deuxième partie de l'émission.
.com.
Je comptais tes peurs dans le temps, ce qui sépare l'espace de tes choix. Je n'étais pas seule. Et les fleurs, tu les comptes sur le bout de tes doigts qui défient noirceur et supplice. Mais moi, je suis attirée par le vice. On s'assemble ensemble, mes petits m'attendent. Et quand le jour se lève, je reviens vers toi. Ce que je reconnais, ce n'est que vie dans moi. Et les murs d'une vie qu'on se plaît à pousser, les limites des corps, ceux qui partagent nos ébats, nos pensées, on s'éprend de douleur, mais on est attiré par notre malheur, on détruit ensemble mes petits matins. Et quand le jour se lève, je reviens vers toi. Ce que je reconnais, ce n'est que vie dans moi. D'abus, je vis d'erreur, tes mots comme une loi, comme une prémonition. On ne changera pas, on ne changera pas. Ce que je reconnais, ce n'est que
que vit en moi. D'abus je vis d'erreurs, tes mots comme une loi, comme une prémonition. On ne changera pas.
Cœur de pirate qui nous chantait Prémonition.
Merci beaucoup. Alors, ma femme m'a interdit d'aller au fourneau ce week-end.
Ah! Et moi, je vais lire un article qui s'intitule « Les hommes, virgule, au fourneau ».
Ah, voilà, je viens
mais
d'entendre.
Mais c'est écrit par Yannick Marcil, qui est un économiste indépendant. Ah. Alors, imaginez, c'est pas vraiment... vous allez pas apprendre des recettes de cuisine.
Parfait.
Ici, messieurs. Voilà. Alors, donc cet article que j'ai trouvé dans l'itinéraire de février 2018. L'année 2017 aura été résolument féministe. On se souviendra longtemps du mouvement MeToo qui a déferlé un peu partout dans le monde et a secoué les colonnes du temple patriarcal. Au cours de l'année, on a également beaucoup parlé de la charge mentale soutenue par les femmes. Ça, c'est un indice. L'idée n'est pas nouvelle, mais elle a été remise au goût du jour. La charge mentale, c'est la responsabilité qui incombe à la femme dans une famille, malgré une meilleure répartition des tâches dans le couple, de tout planifier. Donc cette charge de tout planifier, courses, repas, ménage, activités des enfants, rendez-vous médicaux, et de rappeler son conjoint à l'ordre éventuellement. Le poids de la charge mentale fait en sorte que même si les femmes occupent de plus en plus de place sur le marché du travail et que les hommes prennent de plus en plus de responsabilités dans la famille, les femmes demeurent responsables de l'organisation de la vie familiale. Autrement dit, même si les tâches sont mieux réparties dans le couple, c'est encore la femme qui porte la responsabilité de la vie familiale. Cela dit, l'égalité femme-homme est loin d'être atteinte malgré les immenses progrès accomplis ces dernières décennies. Au Canada, le salaire des femmes ne s'élève encore aujourd'hui qu'à environ 85% de celui des hommes. S'il y a une relative égalité à la participation au marché du travail, les deux tiers des emplois à temps partiel, donc plus précaires et moins payants, sont occupés par des femmes. Les inégalités perdurent même au sein des couples et des familles, même dans le cas où les femmes occupent un emploi. Selon une étude du ministère de la Famille du Québec, dans les familles où les deux parents travaillent à temps plein, la femme passe 26% de temps de plus aux tâches ménagères et aux soins des enfants que les hommes. Et ça n'est pas mieux chez les jeunes. Cette statistique se vérifie particulièrement chez les 18-34 ans. Pire, 20% des hommes de cette tranche d'âge, donc 18-34 ans, ne consacrent aucune heure au travail ménager. Il y a donc encore beaucoup de chemin à faire. Et si on renversait les choses, que se passerait-il ? Une étude fascinante a été publiée en juillet dernier par une équipe internationale d'économistes sous la direction de Andrés Erosa, professeur à l'Université de Madrid, qui a analysé le temps consacré aux tâches ménagères et à leur travail par les femmes des États-Unis de 1976 à 2010. Leur travail a permis de faire une découverte étonnante, voire renversante. Si les femmes réduisaient de 10% le temps qu'elles consacrent aux tâches ménagères et aux soins aux enfants, elles augmenteraient celui consacré au travail de 14%. C'est un gain énorme. Autrement dit, plus les hommes feront leur part à la maison, plus les femmes seront présentes sur le marché du travail. C'est là un gain pour les femmes et pour l'ensemble de l'économie, donc pour les hommes également. Les bonnes nouvelles ne s'arrêtent pas là. Cette plus grande participation des femmes sur le marché de l'emploi réduirait les écarts salariaux entre les femmes et les hommes de 11%, tout en augmentant la productivité du travail de 5,4 points de pourcentage et l'indicateur de bien-être général de 6,9 points. Dans les trois cas, il s'agit là aussi de gains énormes dont profiterait l'ensemble de la société. Ce qui est fascinant dans cette analyse, c'est de constater à quel point l'organisation très microscopique de notre vie familiale influence celle de l'ensemble de l'économie. Il suffirait donc que 10% du temps consacré à la famille soit transféré des femmes aux hommes pour que tous et toutes en bénéficient. Alors les hommes, allons au fourneau, occupons-nous des enfants et réduisons la charge mentale de nos conjointes, nous y gagnerons tous. Voilà, donc écrit par Yannick Marcille dans le journal L'Itinéraire, les hommes au fourneau.
On parlait quand même du fourneau.
Absolument. Mais plutôt des tâches ménagères que des recettes de cuisine.
Exactement. On vous revient dans quelques instants avec Roger. Alors, Roger, pour me permettre d'oublier qu'il faut que j'aille au fourneau le week-end prochain.
Oui, c'est ça. Fourneau dans un sens.
Pas seulement le week-end, hein, c'est sur le l'emploi du temps en général.
D'accord.
Oui, c'est ça. Alors, pourquoi nos trois premières années sont-elles noyées dans les brumes de notre mémoire? C'est bien dit. Hein? Ah. Le grand oubli. Par Christine Olson. C'est elle qui parle. « Je suis la plus jeune de l'eau et de loin d'une fratrie de 5 enfants. Quand j'ai eu 6 ans, les derniers de mes frères et sœurs ont quitté la maison qui, autrefois très bruyante, a connu un calme inédit. Ma famille m'a raconté des histoires de l'époque, avant le départ des plus grands. Comment mon frère me tendait des embuscades au détour des couloirs avec un crocodile. Comment ma sœur aimée me portait sur son ventre. Pourtant, je garde moi-même très peu de souvenirs de cette période. C'est le cas pour la plupart des adultes. L'amnésie infantile, selon la formule de Sigmund Freud, désigne l'absence de souvenirs des 3 ou 4 premières années et leur rareté jusqu'à environ 7 ans. Pendant un siècle, on a tenté de comprendre s'ils étaient simplement rangés dans un coin de notre cerveau, n'attendant qu'une impulsion pour se manifester. On pense, hélas, aujourd'hui, que les souvenirs que nous accumulons au cours de nos premières années disparaissent, tout simplement. Chez les enfants, comme chez les adultes, la mémoire est étrangement sélective. Dans l'un de ses articles, Carol Peterson de l'Université Memorial de Terre-Neuve raconte que son fils de 20 mois à l'époque avait été très impressionné par des ânes lors d'un voyage en Grèce. Il avait continué à en parler pendant au moins 1 an. Lorsqu'il est entré à l'école, le garçon avait pourtant complètement oublié l'épisode. Interrogé à l'adolescence sur ses premiers souvenirs, il avait oublié les ânes grecs, mais se souvenait d'une dame qui lui avait donné beaucoup de biscuits peu après ce voyage. Carole ignore totalement pourquoi il s'en souvient. C'était une anecdote ordinaire que la famille n'avait pas évoquée par la suite. Pour mieux comprendre pourquoi certains souvenirs perdurent plus que d'autres, son équipe a de nouveau étudié ceux des enfants. Ils ont conclu que si un souvenir portait une grande charge émotive, les enfants avaient 3 fois plus de chances de la conserver. Les souvenirs structurés avaient 5 fois plus de chances d'être retenus que des fragments épars. Pourtant, des souvenirs isolés et sans conséquence, comme un butin de biscuit, peuvent perdurer. Des souvenirs durables reposent sur de nombreux facteurs biologiques et psychologiques. La matière brute de la mémoire, images, sons, odeurs, goûts et sensations tactiles de l'expérience, arrive dans le cortex cérébral, le siège de la conscience où elle est enregistrée. Pour se transformer en souvenir, ces sensations doivent être stockées dans une partie du cerveau, l'hippocampe, dont nous a parlé tout à l'heure notre animateur. Alors, stockées dans l'hippocampe, dont certaines zones n'atteignent leur plein développement qu'à l'adolescence. Le cerveau d'un enfant aura donc plus de mal à mener à terme ce processus. Une multitude de choses entrent en jeu d'un point de vue biologique pour créer un souvenir, explique Patricia Bauer, psychologue à l'université Emory à Atlanta, en Géorgie. Il faut le circonscrire et le consolider rapidement avant de l'oublier. C'est comme préparer de la gelée. On mélange les ingrédients, on verse le tout dans un moule et on le place au réfrigérateur pour que la préparation prenne. Mais le moule a un petit trou. Il ne reste plus qu'à espérer que la gelée, votre mémoire, se solidifie avant de s'écouler par cette ouverture. De plus, les jeunes enfants maîtrisent mal la chronologie. Ils manquent de vocabulaire nécessaire pour décrire un événement. Ils ne peuvent donc pas encore construire le récit qui forme le socle d'un souvenir durable. Enfin, ils n'ont pas vraiment conscience d'eux-mêmes, ce qui est pourtant indispensable pour intégrer les expériences passées à l'histoire de leur vie. Dans la petite enfance, une foule de nouveaux neurones se créent dans l'hippocampe. Une étude récente sur des souris a démontré que ce processus, la neurogenèse, peut causer des pertes de mémoire en perturbant les circuits de souvenirs existants. Nos souvenirs peuvent également être influencés par ceux d'autres personnes à propos d'un même événement ou par de nouvelles informations. Lorsqu'un adulte engage une conversation animée avec un enfant sur des événements passés en l'invitant à participer à la construction de l'histoire, l'interaction contribue à la richesse de la mémoire sur le long terme, affirme Patricia Bauer. L'enfant apprend à créer des souvenirs et à les raconter. Nos 3 ou 4 premières années sont les premières pages frustrantes et mystérieusement blanches de notre histoire. Au cours de cette période, nous passons de ce que mon beau-frère appelle une miche de pain dotée d'un système nerveux à un humain doué de conscience. Mais étant donné que nous ne nous en rappelons presque pas, ce qui se passe durant ces années est-il important, qu'il s'agisse de maltraitance, par exemple, ou d'amour inconditionnel? Si un arbre tombe dans la forêt de notre développement infantile et que nous ne disposons pas des outils cognitifs nécessaires pour conserver cet événement dans notre mémoire, a-t-il tout de même participé à façonner la personne que nous sommes aujourd'hui? Patricia Bauer soutient que oui. Même si l'on ne garde pas en mémoire des événements datant de notre petite enfance, ils laissent une empreinte dans la manière dont on perçoit et comprend le monde, les autres et soi-même. Vous ne vous rappelez peut-être pas être allé patiner avec votre oncle Henry, mais vous avez compris que patiner et rendre visite à des parents est amusant, explique-t-elle. Vous vous faites une idée de la gentillesse des gens et de leur fiabilité. Peut-être ne serez-vous jamais capable de déterminer comment vous avez appris cela. Mais vous le savez, au plus profond de vous-même, l'humain ne se réduit pas à la somme des seuls souvenirs. Nous sommes aussi le récit que nous construisons. Cette histoire-là, nous ne l'oublierons jamais.
Non.
Alors, c'est un article intéressant.
Christine Carson,
Le grand oubli. Pourquoi nos 3 premières années sont-elles noyées dans les brumes de notre mémoire?
C'est
un petit élément de réponse, pas toute la réponse, je ne pense pas.
Mais il y a quand même l'inconscient. Hein?
Oui,
l'inconscient, on se rappelle peut-être pas, mais l'inconscient s'en rappelle.
C'est l'hippocampe qui compte.
C'est l'hippocampe. Je vous reviens dans quelques instants. En vous parlant encore une fois de stress, les causes, les symptômes et des conseils pour ne pas être stressé. Alors, un article que j'ai trouvé encore une fois sur le site de passeportsanté.net et c'est un papier de Delphine Wacquier. Alors, qui nous parle de stress. Elle dit que le stress est un ensemble de réactions physiques et physiologiques de l'organisme face à une situation particulière que l'on dit stressante et ou des facteurs de stress. Il peut concerner tout le monde, le plus généralement sur une courte durée. Une situation de stress chronique est cependant pathologique. Et qu'est-ce que le stress? Le stress se définit par des réactions de l'organisme, tant émotionnelles que physiques, face à une situation particulière ou à des facteurs de stress. Le stress est une réaction naturelle si celle-ci n'est pas excessive. Au contraire, une situation de stress chronique peut être considérée comme étant pathologique et peut entraîner des désordres digestifs, des céphalées, des troubles du sommeil ou encore d'autres atteintes physiologiques. Chez les personnes asthmatiques, le stress peut être à la source de détérioration des symptômes liés à l'asthme. Il en est de même pour les personnes dépressives, anxieuses ou présentant d'autres troubles mentaux. Des moyens et des techniques permettent de lutter contre le stress, particulièrement quand celui-ci est chronique, comme par exemple les exercices de relaxation ou encore de respiration. Les situations de stress les plus courantes sont l'approche d'examens, entre autres médicales, d'une présentation orale devant un public ou encore en réponse à un certain danger. Dans ces situations, des signes sont alors directement observables, respiration rapide, contraction musculaire, augmentation de la fréquence cardiaque, etc. Les causes du stress maintenant. Le stress est déclenché par des situations qui représentent un danger pour l'individu ou par des stresseurs. Ces situations de stress ou par stresseurs peuvent s'apparenter par divers contextes en fonction de l'âge de la personne. Chez l'enfant et l'adolescent, ceux-ci peuvent se traduire par la confrontation à des situations violentes, abusive ou encore conflictuelle, comme dans le cas d'un divorce des parents. Chez l'adulte, il s'agira davantage de situations stressantes dans la vie quotidienne et au travail, d'anxiété et de dépression. Des études ont notamment démontré qu'un état chronique de stress chez l'adulte était le plus souvent la conséquence d'un état anxieux sous-jacent. L'exposition à des situations traumatiques peuvent également être à l'origine d'un stress chronique. On différencie alors l'état de stress aigu de l'état de stress post-traumatique. Ces deux troubles sont la conséquence d'événements passés traumatisants, entre autres décès, un accident, grave maladie. D'autres origines peuvent être également associées à une situation de stress, entre autres le tabagisme, l'utilisation de substances illicites, des troubles du sommeil ou encore de l'alimentation. Il a notamment été souligné que les personnes présentant un stress chronique et confrontées à des situations de stress sur le long terme présentaient un taux de mortalité beaucoup plus élevé. Et maintenant, qui est touché par le stress? Le stress est une situation courante dans la vie quotidienne et peut toucher chaque personne. Cependant, l'intensité du stress varie d'une personne à l'autre en fonction de sa personnalité et de sa capacité à gérer la situation stressante. Les individus dépressifs et anxieux sont notamment plus à risque de faire face au stress quotidien. Une situation de stress peut s'apparenter à une pression routinière au travail, à l'école, dans la famille ou encore pour toute autre responsabilité. Un stress provoqué par un changement soudain aussi et imprévu, tel qu'un divorce, un changement de travail ou encore l'apparition d'une maladie. Et un épisode traumatique à la suite d'une catastrophe naturelle, d'un attentat, etc. D'autres problèmes de santé peuvent alors se développer à la suite d'un état de stress. L'amoindrissement du système immunitaire rendant l'individu plus à risque de développer des infections et des maladies, des troubles digestifs, des troubles du sommeil ou encore des troubles de la reproduction. Mais également peuvent être associés des maux de tête, des difficultés d'endormissement, un état négatif chronique, de l'irritabilité, des troubles de l'humeur. Les signes et symptômes du stress maintenant, le stress peut se manifester à la fois par des signes et des symptômes émotionnels, mentaux et physiques. Émotionnellement, une personne stressée peut se trouver surmenée, irritable, anxieuse, angoissée ou encore perdre l'estime d'elle-même. Mentalement, les signes peuvent s'apparenter à un abus de pensée, à un état d'inquiétude constant, à des difficultés de concentration ou encore à des difficultés de prendre des décisions et à faire des choix. Les symptômes physiques liés au stress sont tels que des maux de tête, des douleurs musculaires, des vertiges, des nausées, des troubles du sommeil, une fatigue intense ou encore des troubles de l'alimentation. D'autres conséquences peuvent être associées à un état de stress chronique, entre autres l'alcool et le tabac, une augmentation des gestes et des comportements violents ou encore l'éviction des relations sociales. En ce sens, le stress chronique n'est pas à négliger et se doit d'être identifié et soigné le plus tôt possible. Alors voici quelques conseils pour gérer son stress. La gestion de son stress est possible, c'est ce qu'on dit. Quelques conseils et astuces permettent de détecter et de gérer les fameuses situations de stress. Entre autres, la reconnaissance des signes du stress émotionnel, physique et mental. La discussion, il faut discuter avec ses proches ou son médecin, des professionnels. La pratique d'activités physiques quotidiennes et la socialisation. Il y a aussi des exercices de relaxation, comme des exercices de respiration, par exemple. Identifier et définir ses objectifs et ses priorités en est un autre. Et finalement, rester en contact à la fois avec sa famille, ses amis et l'ensemble des personnes de son quotidien. Maintenant, pour finir, comment traiter le stress en cas de complications? Des moyens et des techniques de gestion de son stress existent et sont conseillés en premier recours. Dans ce premier pas, exercices de respiration, de relaxation, des guides de bien-être, etc. sont disponibles et utiles. La consultation du médecin est ensuite à la seconde étape, lorsque la sensation de dépression commence à se faire ressentir au bout de quelques semaines d'un stress chronique ou encore d'un état anxieux qui commence à envahir la vie quotidienne. Alors, un article intéressant peut-être un peu négatif, mais quand même intéressant sur le stress.
Le stress existe, effectivement.
Effectivement. Beaucoup, hein, de plus en plus. Alors, avec la vie qu'on mène, peut-être que les robots vont finir par corriger cette situation?
Je n'en sais rien.
Merci, on vous revient dans quelques instants avec quelques brèves. Alors, ce sera une grande brève de Franceline, en fait.
Oui, oui. Vous savez que dans la revue Le Bel Âge que je lis et que je vous propose, il y a chaque mois une municipalité qui est mise en évidence dans le cadre de municipalités amies des aînés pour un projet original ou innovant. Alors, cette fois, je vais vous parler de Sherbrooke et le petit article s'intitule « Ça, c'est du commerce ». Faire des courses ou sortir sans savoir parfois à qui s'adresser quand on cherche un endroit ou un article précis, ni comment se faire conseiller pour l'achat d'une tenue de soirée ou d'un ordinateur, cela peut être frustrant. Et si l'utilisation de la machine Interact s'avère compliquée, surtout avec une file d'attente derrière soi, c'est encore plus angoissant. Pas étonnant que certains redoutent d'avoir à se rendre dans un lieu public. D'où le lancement du programme « Commerce, amis des aînés », dont l'objectif premier est de sensibiliser les commerçants et les autres intervenants auprès du public à des valeurs comme l'écoute, l'attention et la courtoisie envers les personnes âgées, explique Isabelle Guérard, coordonnatrice à l'AQDR, c'est-à-dire l'Association québécoise de défense des droits des retraités et pré-retraités de Sherbrooke. Grâce à une carte interactive, on peut repérer les établissements amis. Il y en a près de 300 dans épicerie, boulangerie, pharmacie, supermarché, boutique de vêtements, magasins de meubles, centres communautaires, même de loisirs, institutions publiques comme le service de police et même aussi l'université du troisième âge à Sherbrooke. Il suffit de cliquer sur le bouton d'un endroit qui nous intéresse pour connaître son adresse et autres infos pertinentes comme l'accès pour les personnes handicapées. Dans certains cas, on est redirigé vers le site internet de l'entreprise ou de l'organisme. En constatant que leur épicerie chouchou ou leur fleuriste se font plus conviviaux, les aînés sont encouragés à s'y rendre pour effectuer leurs emplettes. Certains y apprennent par exemple que tel commerce offre la livraison, poursuit Isabelle Guérard. Cela les incite à continuer de fréquenter l'établissement parce qu'ils s'y sentent à l'aise et en sécurité. Pour rendre l'exercice efficace, une liste de suggestions de gestes à poser a été fournie aux commerçants et intervenants amis, dont l'installation de portes coulissantes, l'uniformisation du trottoir devant leur établissement pour les fauteuils roulants, de l'aide pour lire les étiquettes ou dénicher un produit, des rabais ou un service de livraison à domicile. Ces propositions les ont encouragés à envisager certains ajustements ou améliorations dans leur commerce, constate Isabelle Guérard. Rendre la vie des aînés plus facile est une priorité pour la municipalité de Sherbrooke, qui constate le vieillissement de sa population. Nous devons absolument nous adapter à cette nouvelle réalité, confirme le maire Steve Lucier. Ce qui veut dire, entre autres, offrir la meilleure qualité de vie possible à nos aînés ainsi qu'à l'ensemble de notre communauté. Une réalité qui ne lui est en plus vraiment pas inconnue. Il habite une maison bigénérationnelle avec sa belle famille. Pour mon beau-père, c'est essentiel d'être autonome et de profiter de l'existence. Je suis très ouvert aux innovations et changements visant à mieux répondre aux besoins de nos citoyens. Faire en sorte que les personnes âgées soient reçues amicalement partout où elles vont est une excellente façon de les encourager à mettre le nez dehors et à socialiser. Quand il veut aller à sa quincaillerie préférée, mon beau-père ne veut pas avoir à s'inquiéter de la façon de s'y rendre ou de l'accessibilité de l'endroit. Il veut y aller, point. Ce qui est bénéfique pour les uns, l'est autant pour les autres. Les efforts que font les entreprises afin de donner un coup de main aux aînés servent aussi aux autres clients, peu importe leur âge, ajoute Isabelle Guérard. Une entrée bien déblayée, un service aimable ou une musique de fond pas trop forte, on en profite tous. Voilà, donc c'était écrit par Linda Priestley en collaboration avec le Carrefour Action Municipale et Famille de Sherbrooke. Ça, c'est du commerce.
Ben, merci beaucoup, François.
Dans le bel âge de février 2018.
Dans le bel âge. Je vous rappelle que cette émission est en rediffusion pendant toute la journée à différentes heures. Donc, vous pouvez avoir les informations sur le site de canalm.vuesetvoix.com. Vous aurez tous les détails et cette émission aussi, elle est tous les jours de la semaine. Hein, à partir de 9h le matin en rediffusion aussi avec différents partenaires pendant toute la semaine. J'aimerais remercier notre metteur en onde Maurice Bolduc et j'aimerais remercier encore une fois Franceline et Roger pour cette belle émission.
Ouais. Et oui, et à la semaine prochaine.
Je vous souhaite une excellente semaine et je vous dis que dans quelques minutes, il y aura l'émission Le quotidien des quotidiens avec Hélène Saint-Denis qui s'en vient nous rejoindre. Elle est juste là dans la porte. Bonne semaine à vous tous.